Bien, bonsoir à tous. Dire quelques mots d'introduction. Nous avons le grand plaisir donc d'accueillir ce soir Madame Florence Janicatrice, qui est professeure d'économie à l'Université de Lille et qui est membre du CLERCE, c'est le Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique. Madame Janicatrice a publié de très nombreux ouvrages, mais je n'en citerai qu'un seul qui est en lien direct avec la conférence de ce soir, qui s'appelle « Les nouveaux indicateurs de richesse », ouvrage qui a été publié en 2005 aux éditions de La Découverte, et j'en parlais à l'instant, qui a été traduit dans de nombreuses langues, dont l'anglais, mais pas encore le japonais. Mais il semblerait que des contacts soient pris pour qu'il y ait prochainement une édition japonaise. Le mouvement des nouveaux indicateurs de richesse en ordre dispersé, l'objectif étant de remettre en question une vision trop centrée sur la production des biens et des services. J'ajouterai que cette conférence est organisée dans le cadre d'un projet de recherche mené par notre centre dans le cadre d'une ANR qui s'appelle Corus, dans laquelle il y a deux partenaires. Thierry Ribaud est le porteur de ce projet et l'organisateur de la conférence de ce soir, et du côté japonais, à ma gauche, le professeur Nakano Yuji de l'université de Komazawa, qui est donc le responsable pour le côté japonais donc de cette étude comparée qui porte un nom, initiative locale et exclusion des étrangers. Donc je laisse la parole à Thierry Ribaud, donc, qui est le modérateur de la conférence.
Merci beaucoup, Christophe. Donc nous sommes très, très heureux d'accueillir ce soir Florence Janicatrice. Comme il a été dit par Christophe Marquet précédemment, effectivement, Florence Janicatrice travaille depuis pas mal d'années sur le thème de, on va dire, l'économie de la qualité, d'une certaine manière. C'est-à-dire différents aspects de la qualité, que ce soit la qualité des emplois, la qualité du travail, mais aussi la qualité plus spécifiquement dans les activités de service. Comment mesurer la qualité? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut mesurer la production des services de la même manière que l'on mesure la production des biens? C'est le background de travail de Florence depuis de nombreuses années, que nous avons partagé d'ailleurs. Je voudrais ajouter aussi qu'elle joue un rôle important dans la socio-économie en France, puisqu'elle a créé, alors là tu m'excuses sur l'année de création, mais en 2008 elle a créé donc la première revue française, dite Revue française de socio-économie, c'est une revue académique. Cette initiative de création de cette revue est, je crois, quelque chose de très important pour le paysage académique français, puisque c'est la première fois que se structure de manière un peu solide, la recherche autour, une recherche alternative à l'économie classique. Cette revue semble avoir, ce qui est intéressant, c'est que cette revue, elle a un succès très important, en fait, apparemment, en France. Donc, il y avait vraiment une lacune là, à combler dans le paysage académique. Et cette lacune est très bien comblée par cette initiative. Florence Janicatrice travaille actuellement à l'écriture d'un ouvrage qui, je pense, sera très, très important aussi. Un ouvrage sur le thème de la performance, et donc ça veut dire aussi sur la manière de mesurer la performance dans les économies tertiaires ou post-tertiaires. Aujourd'hui, elle va intervenir donc sur le thème des nouveaux indicateurs de richesse. Je dois dire simplement que depuis une vingtaine d'années, on observe dans ce que tu qualifies de mouvement désordonné, donc on observe un mouvement désordonné consistant à créer de nombreux types d'indicateurs de richesse alternatifs à l'indicateur que nous connaissons tous, qui est le GDP, le produit intérieur brut. Ce mouvement qui n'est absolument pas homogène, hein, c'est même ça qui fait son intérêt, c'est que c'est un mouvement désordonné précisément, est l'expression en fait d'une contestation croissante vis-à-vis de la macroéconomie et des indicateurs macroéconomiques traditionnels. Mais bien sûr, la chose la plus intéressante et la plus importante à dire, il me semble, c'est que ce mouvement désordonné qui conteste les indicateurs macroéconomiques classiques nous amène à réfléchir sur qu'est-ce que c'est la richesse des nations et qu'est-ce que c'est aussi le bien-être des populations. Donc la position, la posture que Florence Janicatrice adopte est difficile, puisqu'il s'agit en fait de faire d'une question traditionnellement technique, d'en faire une question politique, voire citoyenne. Donc cette question interroge directement la légitimité de l'expertise économique et nous amène à réfléchir sur des manières différentes de penser la richesse précisément et de penser le bien-être. Donc je vais lui laisser la parole, ayant déjà trop parlé, je pense.
Bonsoir à tous. Je suis très honorée, vraiment très honorée d'être parmi vous ce soir et très honorée de voir que vous avez pris du temps sur votre soirée pour venir débattre, pas simplement m'écouter, j'espère, mais aussi débattre d'une question importante qui porte sur ce qu'il nous semble être de l'ordre des richesses que nous voulons préserver. Et je pense que ce type de question peut résonner au Japon comme il résonne dans d'autres pays. Avant de commencer, et après je laisserai la parole à la traductrice que je remercie énormément d'avance, je voudrais remercier la Maison franco-japonaise qui m'accueille depuis déjà quelques jours et qui m'accueille en particulier ce soir. Donc merci à son directeur, Monsieur Marquet. Merci à toute l'équipe d'Hilaire, Chorus Hilaire, je ne sais plus trop comment on doit l'appeler, qui est là aussi parmi nous. Avec l'équipe japonaise au grand complet et Hélène Bay. Et puis un grand merci particulier à mon ami Thierry Ribaud, parce qu'il ne l'a pas dit, mais c'est mon ami depuis 20 ans. Pour gagner tout de suite en productivité, je ne vais pas introduire le sujet parce que Thierry l'a fait pour moi. Et donc, d'une certaine manière, j'ai externalisé la question. Et je vais tout de suite vous présenter le plan de mon intervention. J'essaye d'être un peu structurée parce que je suis très bavarde et que j'ai une empathie à l'égard de la traductrice ce soir. Je n'ai pas l'habitude de la traduction consécutive. Donc dans ce plan que je vais un tout petit peu expliquer, mais très rapidement, je voudrais donc faire une intervention en trois temps. Dans un premier temps, qui est pour moi sans doute le plus important, mais je voudrais aussi vous donner des éléments informatifs, donc j'irai au-delà. Je voudrais essayer de faire passer l'idée que derrière l'élaboration d'indicateurs de richesse, mais on pourrait aussi parler de pauvreté au pluriel ou d'autres choses encore, il y a de très très gros enjeux sociopolitiques qu'il est bon de temps en temps de faire émerger et d'en refaire une question sans doute d'expertise, mais aussi une question citoyenne, et donc ce sera mon premier temps. Dans un deuxième temps, Je souhaiterais, voilà, un petit effet de connaissance commune, évoquer certains des éléments relatifs à la commission Stiglitz que je vais présenter. Mais je dois dire que je ne suis pas sûre qu'il faille présenter la commission Stiglitz. Nous étions ce matin et ce midi avec les membres du projet Hiller dans la ville de Harakawa. Harakawa ? Bon, dites-le pour moi. Et le maire et l'ensemble de l'équipe qui travaille sur de nouveaux indicateurs de bonheur brut connaissaient très très bien la commission Stiglitz et l'ont même évoqué avant nous, en quelque sorte. Mais je prendrai ce temps quand même. Et puis, je voudrais aussi vous parler, ça sera mon troisième temps, de l'émergence en France, mais j'imagine qu'il doit y en avoir ailleurs, je le sais, mais j'imagine aussi que ça va au-delà de mes connaissances, l'émergence en France d'un réseau citoyen hybride, que l'on a nommé le Forum pour d'autres indicateurs de richesse et que l'on pourrait appeler en quelque sorte une cellule de vigilance par rapport aux travaux de la commission Stiglitz. Donc, comme je l'avais dit, je commence sur la question des grands enjeux dans l'élaboration de nouveaux indicateurs de richesse et je voudrais commencer pour ce faire, pour préciser que nous sommes dans un environnement cognitif très particulier et qui est caractérisé par au moins deux éléments, sans doute un peu plus. J'entends par environnement cognitif particulier le fait que depuis plusieurs décennies, nos représentations collectives de ce que sont les richesses ont en quelque sorte été, le terme est un peu fort, mais je l'utilise quand même, ont en quelque sorte été kidnappés par un indicateur extrêmement hégémonique dans ces jugements collectifs de ce que sont nos richesses. Et cet indicateur, c'est le PIB, le produit intérieur brut, le GDP. Or, ce PIB, cet indicateur qui est aussi devenu une forme d'indicateur de pilotage automatique de nos politiques publiques, nous recherchons l'expansion du PIB pour elle-même en quelque sorte, hein, sans même plus interroger cette finalité. Cet indicateur donc est historiquement daté, c'est-à-dire qu'il n'a pas existé de tout temps. Et pour faire court, c'est un indicateur qui a été mis en place dans une grande partie des pays occidentaux au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment particulier où l'effort collectif qu'il fallait faire devait porter sur la reconstruction des pays détruits par la guerre. Et il y a eu le choix politique, et j'insiste, le choix politique de faire cette reconstruction sur une double base industrielle et marchande. En faisant un choix politique comme celui-là, reconstruire les sociétés sur une base industrielle et une base marchande, un certain nombre de dimensions, de priorités ont parfois été données, mais n'ont pas été comptabilisées. Je vais prendre un exemple, celui de l'agriculture. En choisissant de mettre l'accent sur la production agricole par le biais du PIB, par le biais de la production et du produit intérieur brut, de nombreuses fonctions réalisées par l'agriculture ont été tout simplement occultées, en tout cas des comptes. Alors, quelles sont ces fonctions ? Eh bien, par exemple, la fonction de qualité alimentaire, la fonction de l'accès pour tous à la nourriture localement, par exemple la fonction d'aménagement du territoire. Je ne dis pas qu'elles n'ont jamais été prises en compte, mais en tout cas, le PIB tel qu'il a été conçu cherchait à ce que l'on capte la production agricole dans les volumes de production et non pas dans les qualités au sens pluriel que je viens d'énoncer. Cet environnement cognitif est également marqué par un autre enjeu qui est celui de la quantification. La quantification, c'est cette dynamique qui consiste à ce que, finalement, l'argument chiffré finit par supplanter tout autre type, toute autre forme d'argumentaire dans un débat, dans un dialogue, dans une représentation du monde. Et nous sommes guettés par ce que certains appellent, des sociologues, la quantophrénie, cette frénésie de la quantification et du chiffre. Cela conduit, et on peut le déplorer, et il faut sans doute le déplorer, et peut-être pourrions-nous en discuter dans le débat, mais cela conduit à ce que finalement, dans nos sociétés contemporaines, ce qui n'est pas compté finit par ne plus compter. Une fois ce contexte, cet environnement cognitif contemporain posé, la question du développement durable et de sa mesure peut se comprendre avec des premières clés de lecture, en tout cas. Pourquoi ? Parce que, finalement, quand on s'intéresse au développement durable, c'est-à-dire, reprenons les terminologies, à ce qui fait que nos sociétés peuvent être et rester soutenables pour nous et les générations futures, c'est un concept flou. C'est un concept, en tout cas, sur lequel il nous faut débattre pour connaître ce qui est soutenable, ces biens communs que nous voulons préserver. C'est la même chose pour le bien-être. C'est la même chose pour la qualité de vie. C'est la même chose pour happiness, pour le bonheur. Ce sont des concepts qui ne sont pas spontanés. Eh bien, actuellement, ce que nous observons, la tendance de fond, c'est pas la seule, mais c'est une tendance de fond, c'est que plutôt que d'essayer de convenir ensemble de ce qui ferait qu'une société serait soutenable, on tend à fournir une liste d'indicateurs et à dire « nous considérerons que c'est cette liste d'indicateurs qui fait le développement durable ou c'est cette liste d'indicateurs qui fait la qualité de vie ». Ou si cette liste d'indicateurs qui fait le bien-être pour tous. Et je dis que les indicateurs finissent par incarner les concepts sur lesquels on ne réfléchit, on ne se penche plus. Dernier point, sur en tout cas ce premier petit point. Élaborer de nouveaux indicateurs de richesse peut être vu sous le prisme d'un outillage un peu technique, ou sous le prisme aussi d'une domination. Chacun sa grille de lecture. Mais dans tous les cas, il est impératif, pour des raisons que j'espère pouvoir encore éclairer, mais je vous promets, je ne vais pas pouvoir dire tout ce que j'avais prévu parce que nous prenons du temps. Il me semble que nous ne pouvons découpler la question de l'élaboration de nouveaux indicateurs de richesse, de des éléments très centraux que chacun devrait pouvoir se poser, qu'il soit expert, qu'il soit citoyen, qu'il soit politique. Quelles sont les conditions sociopolitiques dans lesquelles ces indicateurs sont élaborés et sont construits ? Les conditions sociopolitiques de cette élaboration. Et quels sont les usages ? Qu'est-ce qu'on veut en faire de ces indicateurs ? Si on ne pense pas ces questions de manière couplée, on passe à côté de tous les enjeux et on prend aussi le risque que cette question soit dessaisie de la question démocratique. Toujours sur cette question des enjeux, je voudrais les imbriquer, ces enjeux, aux questions de méthode. Au fond, si on pense que le PIB a perdu de sa superbe, Si nous pensons qu'il a des limites, en particulier quand on veut l'utiliser comme proxy de bien-être, comment fait-on pour mettre quelque chose à la place? Quoi mettre à la place et par quelle méthode? Et plutôt que de vous présenter des indicateurs, il y en a une myriade, il y a vraiment une croissance exponentielle d'initiatives partout dans le monde, au Japon compris, autour de nouveaux indicateurs de richesse, je préfère insister sur quelques-uns des enjeux de méthode qui sont aussi des enjeux épistémiques et qui sont aussi des enjeux de représentation du monde. Donc c'est ce que je vais faire ensuite. Les enjeux, je vais vous présenter 4 enjeux de méthode ou 4 questions de méthode. Et évidemment, pour aucune d'entre elles, je ne donnerai de solution ou de prêt-à-penser. L'idée étant plutôt de poser les bonnes questions qui renvoient aussi donc à des enjeux de société. La première question, me semble-t-il, c'est la question de l'échelle. Lorsqu'on s'intéresse à de nouveaux indicateurs de richesse, on se pose très vite la question de l'échelle. Faut-il tout de suite un indicateur qui soit universel et qui prenne le risque d'être très ethnocentré, c'est-à-dire centré selon les individus qui l'auront eux-mêmes élaboré, selon leur propre vision du monde, mais qui a aussi l'avantage souvent d'être considéré comme plus légitime parce que comparable internationalement, parce que appropriable par de nombreux territoires, de nombreux pays, ou au contraire, souhaite-t-on des indicateurs qui permettent d'identifier les spécificités locales, qui soient donc singuliers aux richesses d'un territoire? Est-ce que les richesses du Japon ou de l'une des 47 préfectures du Japon est-elle comparable à ce qui se passe en Amazonie au Brésil? Est-ce que c'est ce qui se passe en France? Les richesses de la France sont-elles comparables et faut-il les comparer aux richesses de l'Éthiopie et vice-versa? Ce sont de vraies questions qui sont à la fois des questions de représentation des richesses, de légitimité des indicateurs, mais aussi de représentation de ce que l'on veut faire émerger comme richesse sur un pays. Un exemple frappant, c'est celui de l'IDH du PNUD, l'indicateur de développement humain qui tout à la fois a permis de déstabiliser un petit peu le PIB, puisque c'était déjà un indicateur alternatif, mais qui, en contrepartie, proposer une vision extrêmement dominante de ce qu'était le développement humain. Le développement humain était ce que le PNUD avait proposé qu'il soit. Mais la question est encore plus complexe que cela, parce que si j'ai pu donner l'impression de considérer que le territoire était toujours légitime, le plus local, il y a aussi des enjeux qui sont imbriqués et qui dépasse les problèmes de territoire et qui constitue quand même un certain nombre de nos richesses. Je pense en particulier à la question écologique. Rarement les catastrophes écologiques s'arrêtent aux frontières des pays. Rarement les enjeux écologiques peuvent se limiter à la question du territoire, et les interdépendances qui existent entre elles nécessitent souvent de s'emparer de la question à un niveau qui ne se limite pas à cette spécificité territoriale. Le deuxième enjeu concernant les méthodes, ça semble technique là aussi, mais ça ne l'est pas du tout, concerne la forme de l'indicateur. Un certain nombre de politiques qui ont piloté l'action publique de manière un peu automatique avec le PIB et la croissance, nous demandent parfois, je suis d'accord, cet indicateur n'est plus pertinent pour appréhender les nouveaux enjeux, mais mettez-nous-en un autre à la place qui puisse avoir les mêmes vertus en quelque sorte. Mais l'on voit aujourd'hui que les enjeux sont très multidimensionnels. Il s'agit de trouver des équilibres entre des formes de développement économique, sans doute, mais aussi de développement social, de développement environnemental et de préservation écologique, et aussi de questions démocratiques. Il existe des manières techniques de mettre l'ensemble de ces dimensions dans un indicateur unique. Je ne vais pas passer du temps à vous expliquer, mais c'est possible. En particulier en monétarisant toutes ces dimensions. L'usage de l'unité de compte monétaire étant très commode, en quelque sorte, pour harmoniser des dimensions très hétérogènes. Mais en faisant ce choix, on prend le risque de rendre substituable, c'est-à-dire de permettre des compensations entre des dimensions qui ne sont pas compensables. Par exemple, si on a un indicateur unique, de dire « bon, j'ai un problème en matière écologique actuellement, mais puisque j'ai de la croissance économique, elle viendra compenser ma faible performance écologique. » Et même chose avec le social et l'écologique, même chose avec l'économique et le social. Or, on peut imaginer, et c'est pas très difficile à imaginer, puisque je pense que nous en avons des exemples fréquemment, que l'activité anthropique, celle qui est réalisée par l'homme, produit des formes d'irréversibilité qui, justement, ne permet pas la compensation entre les dimensions. C'est ce que l'on appelle la nécessité d'une soutenabilité forte et pas faible. Troisième question qui est très importante, me semble-t-il, si l'on regarde les tendances actuelles, en particulier lorsqu'on entend parler d'économie verte, de croissance verte, qui sont des tendances qui vont être promues lors de Rio plus 20 au mois de juin cette année, c'est cette forte propension à vouloir tout monétariser. Monétariser les coûts environnementaux comme les richesses qui ne sont pas comptées par le PIB. Monétariser les coûts sociaux comme des richesses sociales qui ne sont pas comptées. Et là aussi, la réponse n'est pas immédiate. On peut entendre en quelque sorte que une certaine forme de monétarisation puisse faire écho dans nos sociétés contemporaines très économiques, très économicisées. Lorsque le rapport Stern fournit des données en milliards ou en milliers de milliards, le coût ou évalue en milliers de milliards d'euros ou de dollars le coût de la non-action aujourd'hui sur le changement climatique plus tard, on peut imaginer qu'il a une certaine forme d'impact sur les politiques, peut-être même sur les citoyens, qui disent « Ouh là là, si nous n'agissons pas, ça va nous coûter cher plus tard, en quelque sorte. » Mais ce faisant, on laisse entendre que on ne peut aucunement faire valoir d'autres manières de compter. On baisse les bras sur l'idée que d'autres valeurs que les valeurs économiques seraient dignes d'être comptées sur les enjeux contemporains de la soutenabilité de nos sociétés, des richesses que nous voulons préserver. Et cet aveu d'échec, si on l'admet, est, me semble-t-il, relativement terrifiant, en tout cas, encore une fois, par rapport à la démocratie. Le quatrième enjeu de méthode que je vous avais promis, que j'avais promis de présenter, et je pense, pour nombre d'entre nous, y compris dans cette salle, je pense à Michel Renaud, à Marc Imbert, qui sont tous deux, avec moi, membres du Forum pour d'autres indicateurs de richesse, ce dernier enjeu est un enjeu central. Il consiste il porte sur la question de la légitimité. Et pour le dire rapidement, au fond, qui est légitime pour penser cette question de la richesse? Qui est légitime pour penser le bien-être pour tous? Qui est légitime pour penser la soutenabilité de nos organisations sociales? Qui? Je répondrai après. Poser la question et tenter d'y répondre permet de mettre de l'ordre dans les différentes initiatives qui existent et permet de décoder en quelque sorte ce qui se passe dans les rapports de force, dans l'élaboration de nouveaux indicateurs ici comme ailleurs. Pour être un petit peu... Alors, je ne sais pas si le terme pédagogue est le bon, mais enfin, disons, oui, pour tenter de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, je dirais que la légitimité, dans ce que je peux observer, des initiatives qui se développent depuis 20 ans en France, enfin, pardon, au niveau international, cette légitimité, donc, peut se positionner à deux extrêmes. Avec évidemment une continuité possible entre ces deux extrêmes. D'un côté, la légitimité de l'expert. La parole de l'expert est en soi intrinsèquement légitime et lorsqu'elle est portée, produit de la vérité. Ce qui est, encore une fois, sans doute parfois vrai, mais qui peut, dans un certain nombre de cas, sur des questions de société en particulier, toujours être débattu et toujours être discuté, parce qu'il n'y a aucune vérité vraie, me semble-t-il, mais on peut en débattre aussi, en sciences sociales. Et l'économie fait partie des sciences sociales. Cette légitimité est donc une légitimité scientifique qui produit, à partir du travail d'experts, qui produit des travaux d'experts, qui parle avec son langage d'experts, avec ses codes d'experts. De ce point de vue, la commission Stiglitz est tout à fait exemplaire. C'était une magnifique commission, très labellisée, très nobellisée, 6 prix Nobel. Presque tous des économistes, prestige international, et qui, en offrant un rapport, ont posé une pierre importante à l'édifice de l'élaboration, après comment l'ont-ils fait, on verra, mais à l'édifice de l'élaboration de nouveaux indicateurs de richesse. Et leur parole était légitime, parce qu'ils étaient des experts. Je précise un petit point sur cette première possibilité extrême de légitimité de nouveaux indicateurs. En mettant entre les mains d'économistes la question du renouvellement de la mesure des performances économiques et du progrès social, plutôt que d'élargir la question, en quelque sorte, elle a été réduite. Elle a été réduite parce que la mesure des richesses a été réduite à des questions de stock, de flux, de capital, d'épargne. En bref, des concepts que manient les économistes et que ils ont fait ce qu'ils savaient faire, en quelque sorte. Alors, à l'autre extrême, lorsqu'on réfléchit à la question de la légitimité de nouveaux indicateurs de richesse, se trouve la légitimité des individus ou des citoyens. Je vais faire une différence importante entre ce qu'est un individu et ce qu'est un citoyen. Avec au fond l'idée que, comme je le disais tout à l'heure, puisque... nos richesses, nos biens communs, ce qu'il faut préserver, le monde que nous voulons, est une question compliquée, non spontanée, eh bien, interrogeons directement les gens. Hein, je ne donne pas de qualificatif aux gens. Mais c'est une illusion de penser que faire participer les individus ou les citoyens est un processus toujours homogène. Il est au contraire extrêmement hétérogène. D'un côté, on a beaucoup d'initiatives qui visent à dire le bien-être étant quelque chose de personnel, de subjectif. Alors, allons sonder chaque individu pour connaître sa satisfaction de vie, pour connaître, pourquoi pas, son niveau de bonheur, pour mesurer son bien-être instantané, en quelque sorte. Cette manière de procéder est sans doute intéressante, mais elle souffre au moins de deux lacunes ou de deux problèmes. D'abord, elle fait l'hypothèse que chacun d'entre nous, puisque c'est de nous dont il s'agit, nous sommes des individus, on peut venir nous sonder, elle fait l'hypothèse que chacun d'entre nous a une sorte de stock de préférences qu'il s'agirait de venir révéler en quelque sorte, alors même que, au fond, notre satisfaction de vie peut interférer avec l'environnement, peut interférer avec l'opinion des autres, peut interférer avec les événements maintenant, tout de suite ou à venir, et surtout peut interférer avec une vision raisonnée du monde. Et le deuxième écueil, c'est que, en opérant de la sorte, en sondant les individus pour révéler leur bien-être, on fait l'hypothèse que la somme des bonheurs individuels fait alors le bonheur collectif, et on fait l'impasse, parfois, où on prend le risque de faire l'impasse, de biens communs qu'il nous faut préserver. Je vais prendre un exemple. Si le changement climatique, dans le court terme, produit une petite hausse des températures, nous pouvons, chacun d'entre nous, considérer que cela accroît notre bien-être immédiat. Et pour autant, nous devons collectivement prendre en charge, nous emparer de cette question du changement climatique et en faire une question de concernement collectif pour préserver nos biens communs. Mais je pourrais évidemment multiplier les exemples. À l'autre extrême de cet extrême, en quelque sorte, dans la légitimité des acteurs, émerge l'idée, celle qui est promue par ce forum pour d'autres indicateurs de richesse en particulier, et bien d'autres dynamiques aussi, émerge l'idée que sur des questions de société aussi importantes que celles de qu'est-ce que sont nos richesses, encore une fois, vers où nous voulons aller, quel bien commun voulons-nous préserver pour maintenant et plus tard, il faut renouveler la démocratie participative, délibérative, avec cette idée en filigrane que le citoyen peut et doit avoir la parole sur des questions de société aussi fondamentales, aussi ambitieuses aussi. Cette participation citoyenne qui fait non pas un individu qui flotte au-dessus de tous les enjeux désitués, mais qui au contraire inscrit le citoyen dans l'histoire de son territoire, inscrit le citoyen dans une une conscience des droits et des devoirs aussi auxquels il est soumis, donc qui fait de lui un individu raisonné, en quelque sorte. Eh bien, on peut alors lui proposer cette participation. Et dans ce cas, ce qui est visé, c'est au fond une sorte d'élaboration, de convention un peu partagée autour de ce qui serait le bien vivre ensemble, par exemple, ou le bien-être pour tous, ou pourquoi pas une trajectoire soutenable. Évidemment, entre ces deux extrêmes, entre ces deux légitimités extrêmes, il peut y avoir une grande variété de possibles, et en particulier l'idée promue par des sociologues de la science, en particulier l'idée que sur des questions de société, on puisse faire interagir mieux, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, de manière démocratique, à la fois une forme d'expertise d'experts, hein, parce que ce qu'ils disent ne doit pas toujours être jeté à la poubelle quand même. Nous avons aussi des scientifiques autour de la table, et heureusement qu'ils sont là, et il faut s'appuyer sur eux, mais qu'il faut aussi que l'expertise citoyenne, l'expertise militante aussi, puisse avoir le droit de citer, le droit de débattre, et qu'il faut construire des espaces, je dis parfois dialogiques, mais des espaces de dialogue entre ces différentes formes d'expertise qui ont toutes une forme de légitimité. Et si l'on fait ça, alors, en particulier si on fait ça autour de la question des nouveaux indicateurs de richesse, ça permet d'une part de faire redescendre les indicateurs de leur piédestal de souvent d'indicateurs presque religieux en quelque sorte, ou sacro-saints, et dans le même temps de permettre à tous de refaire de ces questions qui ne sont pas des questions techniques des questions politiques au sens noble du terme, qui sont comment organise-t-on nos sociétés et comment produit-on nos priorités dans nos sociétés. J'en viens à mon deuxième point, qui sera réduit drastiquement, mais je vais essayer de me limiter à l'essentiel, en sachant que vous pouvez toujours recevoir le PowerPoint, il y a des références bibliographiques, si vous voulez en savoir plus. Je vais donc essayer de finir en 10 minutes, traduction comprise, pour vraiment laisser de l'espace à la discussion. Les apports de la commission Stiglitz, je dois quand même dire, même si ça a été une pierre certainement décisive dans l'élaboration, dans le mouvement en tout cas, de nouveaux indicateurs de richesse, je dois dire que la commission Stiglitz n'a pas été très innovante, parce que les limites du PIB et les critiques autour des limites du PIB comme indicateur, comme proxy de bien-être en particulier, datent de la création du PIB lui-même ou de l'élaboration des premiers comptes par Simon Kuznets dès les années 1930, qui alertait les chercheurs en disant « n'utilisez pas ce type d'indicateur agrégatif comme indicateur de bien-être et surtout pas pour le pilotage automatique de l'action publique ». Il ne le disait pas en ces termes, mais en fait on pourrait maintenant, aujourd'hui, l'exposer ainsi. Ensuite, il y a eu le Club de Rome dans les années 60 qui a produit un rapport « Limits to Growth ». Et en 1971-72, deux auteurs très connus, puisque l'un d'entre eux a été aussi le promoteur de la taxe Tobin, donc ce sont Nordhaus et Tobin qui ont écrit un article fondateur qui s'appelait « Is growth obsolete ? Est-ce que la croissance est devenue peu pertinente ?» Mais le grand regain d'intérêt autour de cette question date du début des années 90, En particulier avec l'acte fondateur posé par le programme des Nations Unies pour le développement, de l'élaboration d'un contre-indicateur, son indicateur de développement humain, l'IDH, indicateur diffusé en 1990. Et ce qui est très intéressant, c'est que les États-Unis se sont opposés l'année de sa sortie à la sortie du rapport, parce que elle descendait assez bas dans le classement de l'IDH par rapport à son classement dans le palmarès du PIB par habitant. Et l'on voit à quel point ces indicateurs sont aussi des représentations de la puissance, de la puissance. Entre 1990 et 2008, 18 ans se sont passés, et pendant ces 18 années, de très nombreuses initiatives partout dans le monde ont émergé visant à supplanter le PIB ou à compter autrement les richesses des territoires des pays. Donc on ne part pas de rien du tout. 2008, c'est l'année de la mise en place par le président Sarkozy de la commission Stiglitz, avec pour mandat de fournir un rapport faisant des propositions pour mesurer autrement la performance économique et le progrès social. Cette commission a produit un certain nombre d'avancées. Et en tout cas, nous sommes nombreux, en particulier dans le réseau FER, à penser que la plus grande avancée de la commission Stiglitz a été celle de fournir une caution scientifique à des critiques autour du PIB, mais critiques qui étaient déjà très connues et que de très nombreux chercheurs, acteurs de la société civile, citoyens, avaient déjà intuitivement ou pas intuitivement, ou de manière formelle, écrite. Je les cite rapidement, ces limites. Le PIB est construit de telle sorte que toujours plus d'activités, c'est toujours mieux. Toujours plus de psychotropes, toujours plus de production énergétique, toujours plus d'activités, quelles qu'elles soient, c'est toujours mieux. Le PIB oublie un certain nombre de richesses qui pourtant sont sans doute considérées comme étant des richesses importantes à nos yeux. Le bénévolat, l'action associative, la production domestique, vous savez, celle qui est réalisée en grande partie par les femmes dans la sphère du ménage et qui est donc invisible aux yeux des comptes. La troisième limite, c'est que le PIB est indifférent aux inégalités économiques. Il est indifférent aux richesses qui sont distribuées. Il n'est pas prévu pour ça, mais je vous rappelle que tout ce qui n'est pas compté ne compte pas. Et la quatrième limite, sans doute la plus importante aujourd'hui, c'est que le PIB, c'est un compte de flux, c'est le seul terme technique que j'utiliserai, et il est indifférent à l'état de nos patrimoines. Il est indifférent à l'état de notre terre, à l'état, à la qualité de nos sols, à la qualité de l'eau. Il est indifférent à l'état aussi de notre patrimoine social, à la densité de nos liens, à notre solidarité. Il est indifférent à ce qui fait que nous faisons société. Il n'est pas prévu pour ça. Mais lorsqu'on l'utilise comme outil de finalité de vie en société, alors cette critique prend du sens. Et donc, la commission Stiglitz a fourni une fois de plus, et c'est tant mieux, cette caution scientifique à ces critiques autour du PIB. Vous avez compris que les indicateurs ne sont jamais que des objets techniques, mais colportent toujours ou véhiculent toujours une vision du monde. Et évidemment, c'est la grande critique après cette caution scientifique positive à l'encontre de la commission Stiglitz. La commission Stiglitz a travaillé toute seule, en chambre, entre experts, sur des questions citoyennes, des questions de quel monde nous voulons, quelle soutenabilité pour nos sociétés. C'est la raison pour laquelle un forum, le Forum FAIR, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, s'est établi en France. Alors, il s'est établi en France parce que la commission Stiglitz était en France, bien qu'ils parlaient tous en anglais. Donc, le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, c'est une structure très souple, hein, qui voulait être une force de proposition vis-à-vis de la commission Stiglitz, sans ambition particulière autre que de leur demander, de les supplier de s'ouvrir à la société civile sur des questions d'intérêt général. Aucune autre ambition que de leur dire « ouvrez le débat, ouvrez vos portes ». Ce n'est pas une question d'expertise, celle sur laquelle vous êtes en train de travailler. C'est une question d'intérêt général. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas été entendus. Mais notre forum continue au-delà de la commission Stiglitz. Il y a Beyond GDP, mais il y a aussi Beyond la commission Stiglitz. Et donc, les objectifs fixés par ce forum, dans lequel il y a des philosophes, des sociologues, quelques petits économistes, mais aussi des individus qui viennent avec leur propre histoire, leur propre organisation associative. Donc, l'objectif de faire, c'est de proposer des délibérations publiques sur ces questions d'intérêt général et pas du tout des questions techniques. Et donc, elle développe de très nombreuses actions sur lesquelles nous reviendrons sans doute dans le débat. Et en particulier, elle a capitalisé l'ensemble de ses réflexions, ce forum, dans un ouvrage qui s'appelle « La richesse autrement », justement, et qui est paru en mars 2011. Et juste un point, c'est qu'aujourd'hui, les engagements de ce forum tournent autour de Rio plus 20, que j'ai évoqué tout à l'heure, et en tout cas, en essayant de nous battre aussi, parce qu'il s'agit de bataille, contre cette notion qui est en train de supplanter celle du développement durable et qui est celle de l'économie verte, qui est sans doute une très 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 grande régression par rapport à ce que promettait le Forum de Rio en 1992 autour de la soutenabilité de nos sociétés. J'aurais souhaité vous dire bien d'autres choses, mais pour la qualité de vie de nous tous, pour le bien-être général et surtout celui de notre ami, et pour le débat, donc pour la démocratie, je vais m'arrêter là et je vous remercie infiniment pour votre écoute.
Merci beaucoup Florence, Jeannicatrice, pour je peux dire Florence aussi, pour ce sacrifice de ta satisfaction individuelle. En fait, je vais essayer d'être bref, parce que je voudrais que les gens puissent parler. En synthèse, moi je retiens deux choses au moins, il y en a d'autres, mais je retiens que derrière les méthodes de mesure de la richesse, il y a donc les représentations du monde, et il ne faut peut-être pas l'oublier. Je retiens également que quand on construit des indicateurs de richesse, il faut prendre en compte les conditions sociales et politiques de construction de ces indicateurs, c'est-à-dire qui les construit, pourquoi faire, quand et comment. Hein. Je retiens aussi que les experts n'ont pas forcément le monopole de définition des indicateurs de richesse. En tout cas, ce monopole, s'il se l'attribue, on peut le discuter. Voilà donc trois conclusions. Et je retiens aussi, de manière un peu plus détendue, que le PIB est un compte de flux et pas du tout un compte de fées, hein, si j'ai bien compris. Alors, une remarque plus grave. Je n'ai pas participé aux travaux de la commission Stiglitz, je n'ai pas eu cet honneur. Par contre, la description que tu en fais me fait énormément penser au colloque des experts internationaux qui se sont réunis les 11 et 12 septembre à Fukushima en 2011, donc, et qui était censé travailler sur les effets sanitaires de la radioactivité. J'ai deux questions. Pourquoi a-t-on besoin de nouveaux indicateurs, en fait ? Ça, c'est ma première question, et je la formule autrement. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, hypocrite, voire démagogique ou pervers, de critiquer une quantification pour la remplacer par une autre quantification? Ça, c'est ma première question. Bien sûr, cette question, je suis conscient qu'elle peut paraître aussi stupide que la question que l'on pose souvent aux écologistes, je ne suis pas écologiste au passage, lorsqu'on leur demande pourquoi ils prennent l'avion ou pourquoi ils utilisent l'électricité issue des centrales nucléaires plutôt que de se déplacer à cheval ou de s'éclairer à la bougie. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que tu ne penses pas que le désastre nucléaire de Fukushima remet en question, remet la question de la quantification au centre des enjeux et du débat démocratique?
Je vais... merci beaucoup pour ces remarques et questions. En même temps, elles sont compliquées et sur la deuxième, je ne suis pas suffisamment... je ne veux pas dire experte, mais... en connaissance, mais j'aimerais bien peut-être que d'autres s'expriment qui sauront plus que moi pour répondre à cette question sur Fukushima, mais je pressens que c'est une question centrale. Mais sur la première question, si je parlais uniquement à des Français, je dirais, mais je vais le dire quand même, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons besoin d'un certain nombre de repères cognitifs pour produire du jugement. Et parmi ces repères cognitifs, la quantification peut en être un, utile. Mesurer les becquerels à un moment, voilà, je réponds un peu à la deuxième question, peut être utile et sans doute nécessaire. Sans doute de temps en temps être en capacité collective de mesurer des niveaux d'inégalité, c'est utile, ça nous permet de nous produire un jugement collectif. Ce qui est déplorable, ce qui est contestable, ce qui est discutable, c'est que un indicateur qui normalement doit nous aider, doit être un appui au jugement collectif qualitatif, prennent le pas sur toute autre forme de jugement ou d'argumentaire sur la réalité et surtout deviennent une finalité. C'est cela qui est déplorable. Parce que du coup, c'est ceux qui ont produit ces indicateurs qui dominent. Parce que c'est à eux que revient la production de cette finalité. Et donc il faut... sans doute être un peu en capacité de résistance, mais rappeler que les indicateurs sont toujours des conventions sociopolitiques et que nous devons nous donner les moyens collectifs de construire une démocratie, il faut le faire, il faut la construire, qui nous permette d'élaborer ensemble ces conventions sociopolitiques.
Merci beaucoup.